France Inter.
Bon, bah, comme d'hab, un super épisode sur My Hero Academia, manga que je connaissais pas. Et par contre, ça m'a fait penser à un autre, du coup, petit conseil lecture sur aussi des super-héros, mais dans un côté un peu moins tout public et un peu plus dark. C'est Evol de Atsushi Kaneko. Très très bon manga avec des ados qui acquièrent des pouvoirs on ne sait comment dans un monde où les super-héros existent et là ils décident de devenir des super-vilains qui veulent détruire le monde.
Bonjour Frédéric, c'est Lou. Je voulais vous remercier depuis toutes ces années d'avoir fait ce podcast qui prend le relève l'été et pour toutes ces émissions au sujet si intéressant et surtout c'est de la pop culture et ça m'a permis de me faire rendre compte que cette culture, c'est pas une sous-culture et pouvoir être fière de l'aimer. Voilà, c'est le premier podcast que j'ai découvert quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, et qui m'a fait écouter plein d'autres podcasts. Tous les jours, c'était génial. Merci. Pas une émission moins bien qu'une autre. Je vous aime.
Salut Frédéric, c'est François. Au passage, j'adore comment on se présente tous à toi par notre prénom, comme si on te connaissait tous personnellement. Bon, après, je pense que c'est surtout un signe qu'on te considère comme un proche ou quelqu'un de notre famille. Je voulais juste te remercier pour toutes ces doses de pop culture que j'attends toujours avec impatience. Et pour l'anecdote, moi, c'est mes parents qui m'avaient fait découvrir ton émission avec ton épisode sur Spider-Man, le dernier de ta saison 1. J'avais adoré d'ailleurs ton audito, vraiment, où tu rappelais à juste titre qu'il n'existe pas de grande ou de sous-culture, mais juste la culture avec un grand C. Et d'ailleurs, en parlant de mes parents, c'est quand ils nous laissaient avec mes frères pour sortir en amoureux, et notamment le samedi soir, que nous, on allumait la télé, en général sur une petite chaîne qui venait de se lancer et qui s'appelait Game One, qu'on a découvert un bon nombre de pépites dont tu as parlé dans tes émissions et dont la dernière en date, c'est Cowboy Bebop, que j'avais vraiment adoré. Voilà, donc merci encore à toi pour toutes ces émissions et à toute l'équipe de Blockbuster et j'espère à très bientôt. Ciao, ciao.
To be or not to be, not to be.
Il existe un adage en langue anglaise, be careful what you wish for, qui signifie, parce que je suis fluent, méfiez-vous de ce que vous souhaitez. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de résumer l'expérience d'un fan d'animation en 2025. Parce que si on m'avait dit, il y a 15 ans de cela, que je pourrais avoir un jour accès chez moi, en excellente qualité, à des séries ou des films d'animation de manière simultanée avec les États-Unis ou le Japon, je n'y aurais pas cru. Moi qui ai parfois attendu des mois, voire des années qu'une cassette d'un film d'animation soit disponible en France. Moi qui devais ensuite attendre 15 jours, 3 semaines qu'une VHS dans un vidéoclub soit disponible à la location. Mais quel apparent paradis que cette immédiateté du divertissement. Et pourtant, vous savez quoi ? Aujourd'hui, il m'arrive de souhaiter que ça aille moins vite. Les plateformes, dans leur course folle au contenu, sortent chaque semaine des séries absolument incroyables, sans la mise en lumière à la hauteur de la qualité qui va avec. Klaus, Nimona, Blue Eyed Samurai, Les Mitchell contre les machines, La Légende de Vox Machina, Ninja Kamui, autant de séries sur lesquelles je suis tombé par hasard. On n'a jamais eu accès à tant de bonnes séries, mais le vertige s'empare de nous quand il s'agit de savoir quoi regarder. J'ai parfois le sentiment que nous sommes tous un peu devenus Augustus Gloop dans Charlie et la chocolaterie.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
T'avais raison, Kate. Ma sœur est morte. Il n'y a plus que Jinx aujourd'hui. Et son rire abject que j'aimerais lui arracher, lui enlever de la bouche à tout jamais. Je suis prête.
Pour restaurer la paix au sein de la cité, vous devez déclarer la loi martiale sur le champ.
C'est ceux d'en haut, nos vrais ennemis. C'est toi qui as deux doigts d'unir ceux d'en bas autour d'une cause. T'es un symbole. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Voir tout cramer.
Si pendant longtemps les adaptations de jeux vidéo ont constitué un exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire, la tendance semble être inversée ces dernières années. la série Last of Us, Fallout, les franchises Super Mario et Sonic au cinéma, ou encore les séries animées de Cyberpunk 2077 et Castlevania en sont de parfaits exemples. Mais aucun de ces titres n'est allé aussi loin qualitativement et artistiquement que la série Arkane du studio français Fortiche, l'adaptation du jeu vidéo League of Legends du studio Riot Games. Les deux saisons de ce chef-d'œuvre accessible sur la plateforme Netflix ont redéfini ce qu'on était en droit d'attendre d'une série d'animation. Pour moi, c'est plus qu'une réussite, c'est un exploit. Un exploit graphique, scénaristique et musical. Et pour revenir sur la genèse de ce fabuleux projet, eh bien j'ai la chance d'être avec les créateurs d'Arkane, Arnaud Delors, bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Charrue, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé avec Jérôme Combe le studio d'animation Fortiche en 2009.
Exactement.
Everyone all right?
Tout le monde va bien?
Never better.
On pète le feu.
Parfait. J'imagine que vous n'avez rien à me dire au sujet d'une explosion et d'une course-poursuite dans les rues de la Haute-Ville. Ou de quatre enfants qu'on a vus s'enfuir de la scène.
What the hell are you?
Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Bah, qu'on pouvait remplir une mission nous-mêmes.
Une mission vous-même?
On a eu un tuyau, préparé le trajet, personne nous a
vu. Vous avez fait sauter un immeuble, vaille. Est-ce qu'au moins tu t'es demandé ce qui aurait pu vous arriver? Hein?
To them?
À tes amis.
Where did you even get this tape?
Ce tuyau, je peux savoir d'où il tombe?
We just heard it at Benzo.
On l'a entendu à la boutique de Benzo.
De qui?
Little man.
De cours sur pattes. C'est moi qui ai eu l'idée. Si tu dois engueuler quelqu'un, alors engueule-moi. Mais c'est toi qui nous dis toujours qu'on doit gagner notre place en ce monde.
Je t'ai aussi dit et répété de multiples fois que le nord de la ville était hors limite. On reste en dehors des affaires de Piltover.
Pourquoi? Eux, ils prospèrent pendant que nous, on trime ici-bas pour gagner quelques piécettes. Depuis quand tu trouves ça confortable de vivre dans l'ombre des autres?
Everyone out.
Tout le monde dehors.
Un extrait du premier épisode de la série Arkane. Vi est interprété par Hayley Steinfeld et doublé en français par Alice Torrent. Et Vander est joué par JB Blanc et est doublé en français par Boris Rehlinger. Alors ma première question, évidemment, c'est comment est né le studio d'animation Fortiche et quel a été votre parcours à l'un et à l'autre avant de constituer ce studio? Pascal?
Alors, si je commence, moi j'ai fait Les Gobelins en 98. J'ai fait deux formations, j'avais fait graphiste au début parce que j'avais raté la première fois l'entrée à l'école. J'étais arrivé sur le premier sur liste d'attente et puis après il y a une formation 3D qui est arrivée et j'ai fait tiens mais pourquoi pas la 3D. Et puis je suis tombé amoureux de la 3D et c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là. Après j'ai toujours aimé dessiner. Puis je vais laisser la parole à Arnaud par rapport à ce qui, d'où il vient.
Alors moi j'ai fait beaucoup d'écoles, des écoles d'art appliqué. Et puis je me suis retrouvé aux Arts Déco de Paris et aux Arts Déco de Paris j'ai fait animation. En fait je faisais plus de l'animation expérimentale on va dire parce que ce que je préfère c'est le film live et l'animation pour moi c'était une façon plus de raconter des histoires. Voilà quoi, donc...
Donc à la base, l'envie, c'était de faire du cinéma de chez Redos.
Oui, c'était ma véritable envie depuis que j'étais tout petit. Je viens de la banlieue, donc c'est génération VHS, génération Mad Movies, ce genre de choses. On n'a pas forcément accès, comme à Paris, en banlieue, à la culture. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui louait un magnétoscope et qui me laissait acheter, enfin louer des cassettes le week-end. Et j'ai commencé à voir des films que je devais pas voir assez tôt, en fait.
Oui, c'était bien, les années 80.
Ah, c'est très bien.
Ça, on s'en rappelle. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on partage.
L'irresponsabilité parentale et tout ça. Qu'est-ce que c'était bien. T'étais ouf, on s'en fout. Et Pascal... Initialement, donc, vous dessiniez énormément, et ce passage à la 3D, parce que c'est quand même deux médiums très très différents, d'être sur sa feuille de dessin et gribouiller toute la journée pour produire quelque chose, et tout d'un coup, arriver à la 3D, il y a quand même un énorme fossé entre les deux.
Oui, alors moi j'ai commencé à dessiner relativement jeune, j'étais en centre aéré, il y avait un des moniteurs qui dessinait assez bien.
Et c'était quel type de dessin?
C'était plutôt cartoon. Moi, j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai devant moi du dessin de Franck Margerin. Donc, c'était un style un peu cartoon. Et c'est marrant parce que du coup, je me suis mis à dessiner, je vais avoir 6-7 ans dans ce centre aérien. Et j'ai des copains qui sont passés derrière moi, ils font « C'est toi qui as fait ça ?» Et même le moniteur, le fameux moniteur qui faisait les dessins, me disait « C'est toi qui as fait ça aussi ?» Là, je me suis rendu compte que j'étais pas mauvais. Donc je me suis mis à dessiner au début très cartoon, donc du Franck Margerin, mais plein de choses. Puis je lisais beaucoup de comics, j'avais la chance d'avoir un père qui s'achetait le samedi matin au marché une trentaine de comics. Donc du coup j'avais l'opportunité de lire beaucoup de choses, du Conan le Barbare, là on se retrouvait avec Arnaud aussi, un très grand film et très grand dessinateur. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, au début, j'avais l'impression d'être le meilleur en dessin, et puis on rencontre d'autres dessinateurs. Puis on se rend compte qu'on n'est pas forcément le meilleur en dessin, mais même si on dessine bien, on se rend compte qu'on n'est pas le meilleur. Et puis la 3D, pour le coup, je pense que j'avais une bonne notion du volume. Et là, pour le coup, j'ai excellé assez vite. Et du coup, j'ai pu prendre une place vraiment, et évoluer très très vite, et surtout être un peu plus généraliste, mais, et pouvoir produire les images. Finalement, avec la 3D, on peut produire des images des fois plus poussé qu'on pourrait faire en 2D. C'est pour ça que entre arcane et aussi qualitatif aussi, c'est que la richesse qu'on peut mettre dans nos modèles, quoi.
Et en profondeur de plan, en richesse de la composition.
Alors ça, c'est toute la magie qu'il y a autour. Mais je pense que la force de Fortiche, c'était ça. C'était trois associés qui sont des artistes d'abord, avec des appétences qui sont un peu différentes. Arnaud était un grand créatif depuis toujours et un monteur, un très bon monteur. Moi, j'étais très sur la pré-production, donc le concept des images, le concept art des images, la DA et la fabrication en même des assets. Et puis, on avait Jérôme qui aussi travaille depuis très très longtemps à la 3D. Il est un peu plus vieux que nous, il ne faut pas le dire, hein, Jérôme. Mais,
il n'est pas là, il ne peut pas se défendre.
Exactement. Mais qui est quelqu'un de très, très doué aussi et qui était très sur la finition de l'image. Donc, en fin de compte, on se faisait un bon trio quand on a commencé, assez complémentaire. On arrivait à produire du coup des films. Donc dans l'appartement de Jérôme, quand on a commencé, en 2008-2009, on pouvait faire nos films à trois. Après, on a commencé à embaucher des gens, d'ailleurs des gens qui sont encore à Fortiche aujourd'hui, maintenant qu'on a énormément grossi. Mais voilà, c'était...
Donc ça a commencé vraiment dans un petit appartement, ouais. À trois.
Ouais.
Exactement.
Alors on se connaissait depuis plus ou moins longtemps. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'Arnaud, je l'ai croisé partout. C'est-à-dire qu'Arnaud disait juste avant qu'il avait
fait
beaucoup...
Mais vous suivez d'ailleurs, le juge a dit qu'il fallait arrêter.
Exactement. Mais on s'en rendait pas compte à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on se croisait comme ça, mais on se disait bonjour 5 minutes et puis basta. Et puis dans l'appartement de Jérôme, eh ben, on s'est retrouvés, on a réalisé très très vite qu'on s'était croisés plein de fois. Quoi.
Ah, c'était marrant. C'était le point commun entre nous deux. Quoi.
Voilà. Moi, je connaissais Jérôme d'une première boîte de jeux vidéo dans laquelle on s'était rencontrés. Et puis des atomes crochus.
Il avait travaillé sur Heart of Darkness, je ne sais pas si, oui. Si tu connais.
Ouais, il était assez autodidacte là-dedans, il venait de la Drôme, il est monté sur Paris, et puis il a rencontré un énorme créateur de jeux vidéo de l'époque qui s'appelle Eric Chahi.
Eric Chahi.
Voilà, qui avait fait Another World, Flashback, etc. On a tout joué comme des dingues à ces jeux. Et puis là, c'était le premier jeu 3D. Donc du coup, Jérôme s'est fait ses petites classes dans la 3D. Moi, je venais de la 3D. Et puis voilà, on a trouvé ces petites affinités. Et puis on ne s'était pas vu pendant 6 ans. Et puis un jour, on se retrouve dans une boîte où il voulait développer un long métrage. Donc on ne le citera pas forcément parce qu'il a pas vu le jour qui était pour Gaumont. Et puis en se retrouvant comme ça, on s'est dit, montons une boîte. Faisons.
C'était déjà censé être un long métrage d'animation ?
C'était un long métrage d'animation sur lequel lui était intervenu. Et il était en tant que directeur artistique. Mais il pouvait faire réalisateur aussi. Et puis ça ne s'est pas fait. Et comme moi aussi, j'avais pas mal de déboires. J'étais freelance et j'avais envie de fabriquer les choses. Quoi. J'ai envie d'aller au bout de certaines choses de nos envies. On s'est dit, montons une boîte, comme ça on fera tout, on fera la réalisation et la fabrication et on amènera nos projets jusqu'au bout de l'image, quoi, au final l'image. Et puis Arnaud nous a complété, même s'il connaissait Jérôme depuis longtemps.
De soirée plutôt.
Mais, mais il nous apportait autre chose, il nous apporte la folie créative et puis un montage et puis voilà. Et
comme quoi c'est déterminant dans la réussite d'une œuvre quelle qu'elle soit, c'est de participer à des soirées.
Exactement, ah, oui, alors oui. Les soirées. Hein.
Et est-ce que vous aviez un film d'animation de référence, quelque chose qui vous a fait dire en tant que spectateur cette fois-ci, tiens, c'est vraiment ça que j'aurais envie de développer, j'aurais envie de faire ça, mais même en mieux.
Le premier titre que j'ai eu en regardant un film d'animation, c'était Akira. Alors, je sais, c'est un peu bateau de dire ça.
Oh, mais... Non, ça n'a pas vieilli. Hein.
Donc, j'habitais en banlieue et je me souviens que ça passait au journal télévisé. Ils mettaient des petits extraits la veille de la sortie. Et je me souviens d'un plan où c'était un plan au ralenti. Et c'était la première fois que je voyais ça dans un dessin animé. Je me disais, ah, ils font la même chose dans un dessin animé, entre guillemets, un dessin animé, film d'animation. Qu'ils font, ils font la même chose que dans un live, c'est-à-dire ils utilisent du ralenti. Pour moi, c'était novateur. La mise en scène, j'avais l'impression de regarder un film, mais pas de regarder un film d'animation. Je regardais juste un film, avec des émotions, de l'action et tout ce qui va avec. Et je crois que c'est le premier tilt que j'ai eu, où je me suis dit, pourquoi pas dans mes études plus tard et quand j'ai rencontré Pascal et Jérôme où je me suis dit en fait on va pas faire des films d'animation entre guillemets, on va faire du cinéma, voilà, c'était ça.
Pascal?
Moi, je, pour être tout à fait honnête, au début je voulais travailler dans le dessin, mais pas forcément l'animation, ça n'a jamais été moi j'ai aussi, comme Arnaud, on en parle souvent, génération VHS. Donc, les films, ça a toujours été une passion. Mais je ne m'étais pas imaginé forcément travailler dans l'animation. C'est venu assez tard. Mais moi, il y avait des clips comme les clips de AA, où je regardais le clip, je me disais, voilà, ouais, j'ai envie de faire là.
Oui, celui où il rentre une sorte de dessin animé en noir et blanc.
Ouais. Là, je m'étais dit, ah, pas mal la BD. En plus, animé, ça peut être chouette. Oui. Et puis après, j'ai commencé à faire de la 3D. Et c'était marrant, là, je me suis dit, tiens, la pub, ça a l'air marrant aussi. Il y a pas mal de pubs en France. Je me rappelle les pubs qui se coulent, là. Elles me faisaient mourir de rien. Je me dis, ouais. Le délire, tu vois, le côté jouer avec la 3D, jouer avec le truc. Après, j'ai fait Les Gobelins, et quand j'ai fait Les Gobelins, je me rappellerai toujours, il y avait Ray Harryhausen qui était venu donner un cours.
Et en fait, moi, j'étais... Le réalisateur du Choc des Titans, exactement. De Jason et les Argonautes.
Et moi, j'étais bloqué dans la salle du dessous des Gobelins à regarder Memories, avec Otomo aussi, oui. Mais Morimoto et tout ça, et je me prends une claque et je fais, putain, c'est beau tout ça, là. Et là, il y a eu la passion du... Je me suis dit... Alors, le pire, c'est que je faisais une formation pour le jeu vidéo. Donc, je commençais à faire du jeu vidéo, mais très, très vite dans le jeu vidéo, je me suis dit... Mais en fait, moi, j'ai envie de raconter des histoires. Et voilà. Et au début, on fait de la pub, on fait du clip, parce que c'est facile, c'est accessible. Et puis, parce que t'as pas forcément de passé dans le milieu de l'animation. Et puis, voilà, on s'est donné les moyens, c'est ça. En fait, il faut aller jusqu'au bout de ses envies. Et puis, raconter des histoires, c'est génial. Et puis, Arcane nous est tombé dessus...
Eh bien justement, on est ensemble pour parler de la genèse de la série Arcane, mais pour le moment, on va écouter la bande originale d'Arcane, Enemy, du groupe américain Imagine Dragon. Of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
To what do I owe the pleasure?
Que me vaut le plaisir?
It's Heimerdinger.
Il s'agit de Heimerdinger.
Comme d'habitude.
On lui a montré le fruit de nos recherches. Il dit qu'une révélation serait prématurée.
C'est la fête du progrès. Des représentants du monde entier sont venus ici afin de voir quelle merveille la cité du progrès a à offrir. S'il y a bien un moment pour présenter une invention, c'est justement aujourd'hui.
Great.
Génial.
Heimerdinger est un grand scientifique. Mais il est vieux et tourné vers le passé. Piltover a besoin d'un leader tourné vers l'avenir. Quelqu'un comme vous.
Vous croyez vraiment à ce que vous dites?
La technologie X-Tech a le potentiel de changer toute la donne. Le monde est prêt. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs investisseurs intéressés.
Des investisseurs?
Bien sûr que oui. Tout le monde veut s'accaparer cette nouvelle technologie. C'est votre discours. Donnez au peuple un petit aperçu du futur.
Un extrait du quatrième épisode d'Arcane. Kevin Alejandro interprète Jay Stelis, il est doublé en français par Frank Sportis, et Mel Medarda, le plus beau personnage de l'animation ever, est joué par Tox Olagundoye, qui est doublé en français par Géraldine Asselin. Alors, cette rencontre avec Riot. Riot, c'est le studio derrière League of Legends, une énorme licence de jeux vidéo. Comment cette rencontre improbable a eu lieu entre un énorme studio de jeux vidéo mondialisé et votre petit studio d'animation français ?
Eh bien, c'est Christian Linke, qui est venu nous voir, qui est le showrunner de Arcane et qui s'occupe maintenant de l'animation chez Riot, qui est venu nous voir parce que Jérôme avait réalisé à Fortiche un petit clip indé pour un groupe qui s'appelait Limousine. Le morceau s'appelle La Gaviota. Christian, il avait en tête de faire une série d'animations. Alors, au début, je pense que les ambitions n'étaient pas aussi grandes que celles qu'on peut voir dans le résultat.
Généralement, c'est plutôt le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a d'énormes ambitions, et puis au final, on tranche.
C'était exactement le... En fait, il a vu ce petit film et il a commencé à nous... Il voulait faire un clip vidéo autour du personnage de Jinx. Ça remonte à combien de temps, je me souviens
plus. C'était
2011, 2012. 2011, qui est maintenant dans la série. Et donc, on a fait ce petit clip vidéo. Ça a hyper bien marché. Nous, on avait en tête, on se disait, tiens, on va faire vraiment un clip. On va pouvoir présenter différentes facettes du personnage à travers une sorte d'éventail d'émotions. Et on voulait vraiment le tourner comme un clip. Ça a très très bien marché. Il y a eu de bons retours.
C'est un très grand souvenir parce qu'en fait, c'est la première fois. Déjà, on avait nos premiers bureaux. On avait nos premiers bureaux qui étaient rue Saint-Georges. À l'époque, c'était des petits bureaux de 100 mètres carrés. Et en fait, c'est la première fois on est très mauvais sur les discours, surtout les discours aux équipes. Moi, j'ai tout le temps du mal. Mais là, en fait, c'est la première fois qu'on disait aux gens, on va faire un truc grand. Et en fait, on avait en plus embauché. Des gens qui sont toujours avec nous aujourd'hui, qui s'appelaient à l'époque, ils avaient monté un collectif qui s'appelait les Seven, c'était des artistes 2D. On s'était vraiment dit, on va mixer notre 3D avec ces effets 2D. Ils venaient de faire un clip pour Ice Tropical, qui était, ils mixaient du live action avec des gros effets 2D, mais vraiment bruts, quoi. Et du coup, on s'était dit, ça va être génial, on va faire ça, on va faire un clip vidéo avec ces effets bruts. C'était génial, c'était marrant, quoi. C'était vraiment un très très bon souvenir.
Et après, on a enchaîné plusieurs clips avec Christian. Jusqu'au moment où, en fait, il avait ce projet de série en tête et forcément, il est venu nous voir pour qu'on monte ce projet ensemble.
Et il avait déjà tout le scénario bouclé ?
Alors, le scénario, en fait, il était en fabrication. Là, on allait faire un pilote. Et je crois qu'en fait, on s'est tellement... Il y a une sorte d'émulsion entre nous, entre Riot et Fortiche, c'est-à-dire... On faisait quelque chose qui était plus ambitieux. Riot écrivait quelque chose de plus ambitieux et ainsi de suite. On arrive à ce
qu'on... Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des échanges entre vous.
Ah oui.
Il n'y a pas une verticalité. Vous adaptez exactement ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'en fonction de votre retour, eux-mêmes se disent « Ah, ben on peut peut-être aller plus loin ». Et ainsi de suite.
Exactement, ouais. On a vraiment beaucoup de chance avec Riot Games qui nous fait confiance et qui écoute un peu nos envies et enfin chose qui se voit pas souvent dans le rapport entre des studios français ou autres et des grosses majors américaines, quoi.
Non, mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'était que Christian Linke, donc déjà, c'était un acteur dans la musique. Il avait monté un groupe en Allemagne qui s'appelait Panic.
Parce qu'il est allemand.
Et en fait, au début, il était VRP pour Riot. Quand Riot a commencé, son groupe venait de s'arrêter et il travaillait pour Riot. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait été embauché par Alex Yi, qui est le deuxième co-showrunner de Arcane. Il lui a, au début, comme on dit, de travailler pour Riot en Allemagne. Et en fait, son travail...
Riot développait déjà tous ses jeux vidéo à ce moment-là.
C'était au tout début de League of Legends. Et en fait, Christian l'a bien fait, parce qu'il joue beaucoup au jeu, c'est un passionné de jeu, et il était rentré dans League of Legends. Et en fait, les mecs sont les patrons de Riot. Enfin, c'est qui ce mec qui est en Allemagne travaille bien. Et il regarde sur Internet et là, il est inondé de photos. Et ils lui font, mais tu travailles dans la musique. Et il fait, oui, oui, j'ai eu un groupe. Et ça te dirait de faire la musique à Riot. Donc il a commencé à monter le département musique, qui a une très grosse importance chez Riot Games, et qui est génial. Hein. Les locaux sont dingues. Ils ont un paradis de la musique. Ils ont des salles de dingue. Bon. Et du coup, Christian, je raconte cette histoire-là pour raconter comment Christian, lui, il a monté, il est devenu important dans le département musique. Riot qui laisse la place surtout aux créatifs, aux gens, lui ont dit, tu veux faire quelque chose, tu veux faire un clip, tu veux produire quelque chose, il fait, ah, moi j'aimerais bien faire le clip de Jinx. C'est là où il nous trouve, on fait Jinx, Jinx fait des millions et des millions de vues, des centaines de millions de vues, il passe numéro 1 des vidéos de chez Riot Games. Et du coup, ça le fait monter. Donc, du coup, et puis nous, ça nous fait rentrer un petit peu dans l'univers du trailer de jeux vidéo. Un an ou deux ans plus tard, on fait Warriors, qui avait des designs de Robert Vallet. Robert Vallet, d'ailleurs, adorable, hein, qui est quelqu'un avec qui on a travaillé, qui a fait tous les designs en 5 jours, alors que le mec était déjà une star.
Sur un morceau d'Imagine Dragon.
Morceau d'Imagine Dragon. Et pareil, gros carton. Donc, du coup, il monte aussi 2 vidéos, 2 cartons. Nous aussi, 2 vidéos, 2 cartons. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire Arkane quelques années plus tard. Lui, il avait monté tout son projet. Et puis, au début, les ambitions étaient très modestes. Et en fait, on a fait un test. On a fait des tests d'acting, des tests d'action, qu'on peut trouver hein, d'ailleurs sur Internet. Et on est rentré dans le pilote. On a mis 1 an, ce qui est énorme, mais il fallait fabriquer tous les assets. Donc c'est quand même 35 minutes et puis c'était...
Qu'est-ce qu'un asset pour les auditeurs qui connaissent
pas ? Les assets, c'est tout ce qui constitue l'image. Ça veut dire qu'en 3D, on n'est pas comme en 2D, on dessine pas juste un dessin dont on met une couleur. On va faire des matte paintings, ce qu'on appelle les matte paintings, donc c'est les décors, c'est la peinture des décors. On va les projeter, donc on va utiliser un outil qui s'appelle le camera mapping qui va projeter ces images sur un environnement 3D, ce qui va permettre de mettre la caméra dans l'environnement 3D. Et à l'intérieur de cette... Donc déjà, c'est un asset, c'est l'asset décor. Et puis après, on va créer des personnages, comme une sculpture 3D, dans lequel on va mettre un rig. Dans ce rig-là, va nous permettre de le faire bouger, va permettre aux animateurs de le faire bouger.
Le rig, c'est le squelette.
Exactement, le rig, c'est skeleton, en anglais, qui permet de le faire bouger. Et après, il y a ce qu'on appelle les props, ça va être les objets jouants, c'est les objets qu'on va prendre, que le personnage va prendre dans ses mains.
Un marteau.
Par exemple, pour Jace. Et voilà, et cet ensemble de choses, après, sont rendues par la machine, et là, on obtient l'image finale. Alors, il y a plein d'autres étapes. Hein. Et du coup, quand on a fait ce pilote, les ambitions de Riot Games sont dit, bah, on va réécrire, on va faire un vrai scénar encore plus béton, et puis on y va, quoi. On y va, on va faire les 9 épisodes de 35 minutes. Et puis, au milieu de la première saison, nous, on se disait, mais il est bien le scénario, mais ça va un peu rusher, là. Donc, ça serait bien, peut-être qu'on s'arrête à l'épisode 7, puis qu'on fasse une deuxième saison. Et puis, les 3 épisodes de la première saison sont devenus 9 épisodes d'une deuxième saison. Et
voilà. L'épisode 7 est devenu le dernier épisode.
Exactement.
Enfin, alors qu'il y en a 9.
Et Riot a suivi, ils ont dit, il n'y a pas de problème.
L'histoire que je racontais avec Christian, c'était pour expliquer que c'était... Ça, en fait, ça a été un client magique pour nous. C'était un client... avec qui on peut dire merde quand on a envie de dire merde. Il peut nous dire aussi merde quand il a envie de dire merde. Il y a vraiment une confiance totale. Et c'est ça qui est génial avec Riot.
C'est l'amitié franco-allemande, ça.
Exactement.
On est ensemble pour parler de la série Arkane, mais pour le moment, on va écouter Camille Yembe qui nous interprète Plastique.
Que tu me passerais une cigarette. J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour éviter de tout casser encore. reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques? Je rêve de vivre d'amour et de quête, moi.
Sur France Inter.
C'était pas ma sœur. C'était pas elle. Oui, je sais. C'était juste une espèce de sale petite raclure, de rien du tout. Je me suis embrouillée, voilà, c'est tout. Et maintenant, il croit que je suis faible. Sevika va s'en occuper. Sevika est un bon petit soldat, toujours au garde à vous. Mais je suis pas faible! Et je vais lui prouver. Oh oui, je vais lui prouver! Tu vas voir!
Un extrait du quatrième épisode de la première saison d'Arcane avec Jinx, joué par Ella Purnell et doublé en français par Adeline Chetaille. Justement, on était en train d'en parler pendant l'extrait, le soin apporté au doublage français est exceptionnel. Et puis alors, le doublage américain, Ella Purnell, Hailee Steinfeld qui double aussi Gwen Stacy dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Il faut prendre Hailee Steinfeld si on veut faire des œuvres originales d'animation qui cartonnent.
C'est sûr que... et la Purnell, c'est pareil, hein, maintenant...
Avec Fallout, hein, etc. Ouais, elle est Yellow Jacket.
Mais c'est vrai que, voilà, moi, je suis désolé, tout à l'heure, je regardais mon téléphone, je cherchais désespérément, je ne me rappelais plus du nom, de Yann Perra, qui est le directeur artistique de la saison 1 et 2 en français. Et je crois qu'il a fait un travail admirable. Nous, il faut savoir qu'on écoute, on fait le film sur la version anglaise. Donc, on entend tout le temps nos épisodes en anglais. Et c'est vrai que quand je l'ai regardé en famille, j'ai fait « Ah, tiens, on va regarder en français ». Et j'ai été très agréablement surpris. Et il avait fait un post sur LinkedIn en disant qu'il avait passé un moment fabuleux à faire le doublage de cette série. Et moi, j'ai juste répondu, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Et puis maintenant, on se côtoie. Et ça fait toujours plaisir d'avoir cette version française.
Et dans le dur du travail, vous étiez combien de membres au Studio Fortiche ?
On est monté jusqu'à 500.
Ouais, on est même en totalité, on va dire qu'il y a 500 personnes 700 personnes qui ont travaillé sur ce projet. Parce qu'on est assez fidèles, on garde beaucoup de gens. Mais au pic, plus gros pic, on était 500, 550. C'est beaucoup. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir qu'on met une série comme ça qui se fabrique. C'est déjà l'équivalent de 3 longs métrages. Même un long métrage américain, ça met 3 ans à se fabriquer. Donc il faut avoir un rythme. Et donc on fabrique les films en escalier, 3 épisodes par 3 épisodes. Donc il y a 3 équipes différentes qui travaillent sur 3 épisodes différents.
Et on a 3... Bon, on a un studio à Paris, on a un studio à Las Palmas et un studio à Montpellier.
Alors tout le monde, j'ai dit une bêtise, hein, tout le monde travaille sur chacun des épisodes. C'est surtout pour l'anime qu'on donne des rythmes ou des choses comme ça. Les textureurs, les modeleurs, les monteurs. Alors les monteurs sont divisés par contre. On a 3 monteurs. Et les monteurs ont chacun 2 épisodes du coup, chacun. Quoi.
Et ce mélange
2D et de 3D, c'est-à-dire cette impression d'œuvre peinte qui bouge, parce que c'est ça qui frappe tout de suite la rétine quand on découvre Arkane, et un style graphique qui a fait des émules, parce qu'on le retrouve même désormais dans certains jeux, je pense notamment au dernier Prince of Persia Lost Crown, où vraiment, eux aussi, ils ont dû aimer la patte graphique d'Arkane. D'où ça vous vient ? D'où c'est venu ?
Bah en fait, on a toujours fait... Jérôme, par exemple, il avait fait le clip de Mickey 3D. Respire, qui était en cel shading à l'époque. C'était juste du cel shading, mais il y avait quand même ce désir, cet amour du dessin. Et moi, pareil, en tant que freelance, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup travaillé à 3D pour qu'elle ressemble à de la 2D. Et quand on a monté Fortiche, on a fait du clip, de la pub, des choses en 3D réaliste.
Alors, pareil, hein, toujours pour les auditeurs, le shading, ça correspond à quoi ?
C'est le shading, c'est juste un...
C'est l'ombrage.
Le shading, c'est une texture procédurale. C'est très technique, hein, c'est dans la 3D. C'est les matériaux qu'on met sur un objet 3D. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait du spéculaire, si on veut que ce soit mat, etc., on va mettre un shader ou un matériel qui va être différent pour donner le réalisme ou quoi que ce soit. Et le cel shading, c'est celui qui donne cet aspect très 2D. Donc, ce qu'on appelle du self-illumination, c'est-à-dire que c'est très, très... c'est plat, finalement plat, mais assez illuminé. Et du coup, ça donne l'effet dessin.
Oui, ça donne l'idée d'un dessin qui s'anime.
Voilà.
Cette radio.
Oui, oui. Ou Naruto en jeu vidéo. Voilà. Ou dernièrement, Dragon Ball Sparking Neo.
Ouais, qui était beau, d'ailleurs.
Ouais. Très beau.
Et du coup, nous, notre ambition, c'était de ne pas faire comme les autres. Tout simplement, c'était aujourd'hui, quand on a commencé à faire ça, c'était l'apogée de Pixar. Il y avait Illumination qui arrivait aussi
avec
en
les
France
mignons.
Avec les mignons. Donc la 3D, il y avait plein de gens qui savaient en faire et qui le faisaient bien. Et puis nous, on est des amoureux de l'image, donc on est des amoureux surtout des artistes. Et en fait, on voulait traduire ce qu'on trouvait très très beau. Donc c'est pas que des dessins, mais vraiment ce qu'on appelle des concept art. Et on voulait faire en sorte que ces concept art ils bougent. Nous, on s'est toujours rendu compte que ce qu'on aimait dans un artbook, même un artbook de Pixar ou de quoi que ce soit, c'est les dessins qui sont dedans.
Ou comme dans Star Wars, les peintures de Ian McQuarrie, ouais. Etc. Et quand on voit le film, on se dit « Ah, oh, en fait, je préfère le tableau d'origine. »
On est tous comme ça. Oui. Donc on s'est dit « Nous, on va faire en sorte que... » D'ailleurs, il faut regarder le artbook qu'on a eu enfin dans les mains hier pour la première fois.
Et qui est sorti fin 2024.
Et qui est un très, très... On s'est beaucoup investi dessus, donc on est très content que le résultat... C'était long, c'était compliqué, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, mais on a participé beaucoup à ce livre.
Oui, je vous en tiens par rigueur, hein, parce que j'ai souvent rafraîchi... pour savoir quand est-ce qu'il serait disponible et tout ça, je dis, mais ils prennent le temps. Mais bon, comme vous avez fait une très bonne seconde saison, je dis, ça va, je pardonne. League of Legends, c'est énormément de personnages iconiques, connus par des millions de joueurs. Comment vous avez procédé pour réinventer des personnages tels que Vi, Echo, qui jouissent déjà d'une communauté de fans très importante derrière eux?
Déjà, le jeu League of Legends, donc c'est un jeu compétitif avec une vue aérienne, enfin une vue de haut. Donc les personnages, ils sont assez, ils ont des proportions qui sont assez exagérées pour qu'on puisse les identifier. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était rabaisser un peu tous ces curseurs pour les rendre beaucoup plus réalistes. Et aussi pour rendre leur interaction plus réaliste, c'est-à-dire que Vi, telle qu'elle est représentée, elle a des gants énormes qui sont surdimensionnés pour qu'elle puisse donner des coups sans arracher la tête du personnage en face. On a réduit un peu les gants, aussi pour les proportions, pour... les animateurs aussi, pour que ce soit moins compliqué à animer, et en même temps dans un but de réaliste, c'est-à-dire qu'on voulait faire des personnages avec lesquels on peut souffrir, c'est-à-dire pas des personnages aussi parfaits, on va dire, entre guillemets, quoi.
Ouais, en fait, on parlait souvent de cette première série. Déjà, on avait demandé à Christian Linke si cette série, elle était faite pour... les fans, ou si elle était faite pour le grand public. Et je pense qu'il a été assez smart de ne pas nous répondre, parce qu'il savait que nous, on voulait que ce ne soit pas que pour les fans. Mais bien sûr que c'est un produit Riot Games, ils essaient de livrer à leurs fans le maximum de choses. Cette première saison, elle a abordé un peu comme Game of Thrones. Moi, Game of Thrones, au début, c'était surtout à l'époque, moi, l'Heroic Fantasy, c'était pas trop mon truc. Donc, et j'ai regardé la première saison parce que ça parlait de politique, ça parlait de plein de choses, mais ça, on voyait pas les dragons tout de suite, quoi. Et je suis rentré dedans. Et même s'il y avait des dragons à la fin, j'ai regardé la deuxième saison, la troisième saison. Mais on a un peu abordé cette première série comme ça, c'est-à-dire que les trois premiers épisodes, ce qu'on appelle le pré, et il y a un saut dans le temps, pour pas spoiler à ceux qui n'auront pas vu Arcane. Mais voilà, ça nous permettait déjà d'avoir nos héros qui n'étaient pas ceux qu'on a dans le jeu, donc pas ceux qui ont des armes magiques et des pouvoirs.
Juste des gamins.
Voilà, et c'était agréable pour nous, parce que ça nous permettait même, nous, de rentrer un peu dans les personnages. Donc on est...
Mais même, je crois qu'on les voit se battre, on les voit se battre...
dès le premier épisode.
Dès le premier épisode.
Mais c'est pas du tout le même genre, même type de combat, voilà, qu'on verra ensuite.
Voilà, et on voulait un combat un petit peu avec des réaliste. Accidents, un peu réaliste.
Il y a beaucoup d'inspiration, on sert de tout en fait, nous. Hein. Comme le disait Arnaud tout à l'heure, on est très inspiré par le live action plus que par l'anime, mais... Et la première bagarre entre ces kids dans les premiers épisodes, on s'inspirait même de vidéos sur YouTube, de vraies bagarres d'enfants dans la rue, quoi.
Oui, c'est comme bon. On peut en voir sur Twitter, y a un bully qui a cherché la personne qui valait pas.
Exactement.
Exactement.
Et là, c'était Clagor. Clagor, typiquement, hein, c'est pris d'une vidéo d'un garçon qui, à un moment, en a marre, et soulève le gamin et le
oui, je connais cette vidéo, c'est un petit garçon assez fort, ouais. Et en fait qui arrête pas de se faire harceler, et en fait au bout d'un moment il pète un plomb et il calme le...
Ouais, il
oui,
le
j'ai
calme
vu
bien.
La vidéo.
Ouais.
Oui, oui.
Et ben voilà, ça, oui. Ça c'est...
Ou là tout d'un coup le rapport s'inverse.
J'étais tombé
oh,
dessus, j'ai fait, regarde, c'est le gabarit Clagor, ouais. et Clagor il va pas se battre comme ouais. Un champion, etc. Mais c'est juste qu'il est là, quoi, ouais. Et qu'il faut pas l'embêter.
Oui.
C'était marrant.
Alors que c'est le personnage le plus gentil.
Ouais, c'est un mec adorable.
Vous écoutez Blockbuster et on vous parle de la série incroyable Arcane, mais pour le moment on écoute Drake et Party Next Door qui nous interprète Nokia. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who, who? Who, who? Yeah, yeah. OVO Sound 2025. Who's calling that shit? Is it Stacy?
The function, where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that ass till the morning come. You want shots for the girls, then order some. Who's calling it? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who, who? Who, who? Who, who?
Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Is it Party? Where's the function?
Where the fuck the function? Where the fuck the function? Impress me, baby girl. Let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake an ass in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Show the whole yeah. World. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty. Impress me. Hey, how many hoes in this club? Is it just me and you, my love? I don't
don't mean to call you no hoe. I just heard about the things that you do, my love. And you're just like me if it's true, my love. Ayy, you can see right through my love. Ayy, I see your waist shrunk, my love. Ayy, you got some bass in the trunk, my love. Damn, how many hoes in this club? Is it really just me, my love? You know my dad and them pimpin' for real. You ever been down to Memphis, Tennessee, my love? I ain't saying I agree, my love. I'm just telling you the things that I see, my love. I got drinks, jokes, sex, and cash. Those are four things I can guarantee, my love. Ay.
Baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake and dance in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world.
Show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'm an ice boat with y'all like Gretzky. I'm an
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
C'est un peu barbare, j'en conviens. Cette violence crasse si nécessaire au changement. Mais nous savons tous les deux que c'est là le seul langage que parle la haute ville.
Même avec tes monstres, tu gagneras jamais contre Piltover.
Ce n'est pas nécessaire. Il me suffit de les effrayer. Et plus jamais ils n'oseront remettre les pieds dans les
baffes. Des gens vont mourir à cause de toi. Pourquoi? Par orgueil?
Pour le respect. Et les opportunités. Tout ce qu'ils nous ont toujours refusé.
Tu avais mon respect. Les voix te respectaient, mais c'était jamais suffisant.
On partageait une vision, Vander. Un rêve de liberté. Pas uniquement pour les voix, mais pour toute la cité souterraine, unie dans un seul objectif. La nation de Zorn.
Dans cet extrait du troisième épisode d'Arcane, vous pouvez entendre Silco, joué par Jason Spisak, et doublé en français par Bernard Gabay. J'ai eu la chance d'animer une masterclass avec Josh Cooley, réalisateur de Toy Story 4, de Transformers 1, et il m'expliquait, qui a travaillé 17 ans au studio Pixar, et il m'expliquait qu'avant même de réaliser, il avait une rencontre avec les comédiens américains, et que c'était le doublage qui déterminait la manière dont ça allait être animé. Est-ce que vous avez procédé de la même manière? Est-ce que les comédiens étaient déjà castés avant même d'animer les personnages ou non? Pascal?
Tous les personnages n'étaient pas castés avant, au moment où on a démarré la production. Hein. Il y a le storyboard, il y a tout ça. Mais oui, on a les voix des acteurs avant l'animation. Important. Ça peut ne pas être le cas. Hein. Des fois, on avait des voix temporaires sur des problèmes de casting, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des épisodes qui évoluent. Donc, du coup, ils ont besoin de réenregistrer des voix. Et puis, avec des stars comme Ella Purnell et les Stanfield, c'est sûr qu'elles ont un emploi du temps. Mais non, on pourrait avoir et on pourrait demander de scaler les animateurs, se caler aussi sur le jeu d'acteur des voix originales. Et là, sur Jinx, elle a fait un travail de dingue. On a tout de suite fait banco quand on a entendu la voix de Jinx.
J'explique pour les auditeurs qui n'auraient pas encore, les deux du fond qui n'auraient pas vu Arcane, vraiment, regarde Arcane. Jinx, c'est un personnage déstabilisé, qui est un mélange entre Harley Quinn, si vous connaissez l'ex-comparse du Joker, et qui vous voulez, enfin quelqu'un qui va pas bien. C'est voilà, c'est une enfant de la ZEU qui aurait croisé voilà Harley Quinn.
Et du coup, on a les animateurs ont accès à ces vidéos là, mais c'est cadré en plan américain. Il y a pas vraiment d'acting, on voit juste un petit peu son facial. D'ailleurs, il y a un très gros travail d'animation sur le facial. C'est ce qui est aussi très rare dans l'animation d'avoir un travail aussi poussé là-dessus. Mais les animateurs font les acteurs eux-mêmes, donc il faut qu'ils s'habituent à connaître le personnage. Donc bien sûr, on peut s'inspirer d'acteurs, mais ils vont se filmer, ils vont jouer eux-mêmes, et puis retravailler. Ils vont certainement pas se rotoscoper, mais en tout cas, ils vont s'inspirer de leurs mouvements et ça va leur faire une vraie base. Et voilà, c'est ce qui donne un peu ce côté réaliste aussi qu'on a dans l'animation.
Et est-ce que vous aviez un personnage en particulier auquel vous vous étiez attaché et que vous aviez plus envie
Moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien Jinx. J'aime bien Jinx parce que c'est un personnage avec. Je me souviens avec Bart Monoury, qui était notre directeur d'anime à l'époque et maintenant qui est réalisateur sur la saison 2. On se posait beaucoup de beaucoup de questions et on se posait. C'est un personnage ambivalent qui est. On a ramené. En fait, au début de la saison, lorsqu'elle est soit Jinx, soit Powder, elle n'a pas encore choisi. Et on jouait avec les expressions de Powder, on ramenait des expressions d'enfant et tantôt des expressions plus de psychopathe, on va dire. On s'inspirait de Taxi Driver, on s'est inspiré de plein de films pour éviter justement de...
Oui. D'être trop Harley Quinn.
D'être trop Harley Quinn. Oui. Parce que ça peut être le truc qui revient d'emblée. Et on se disait aussi... on a expérimenté notamment avec les scratch vidéo, ce genre de choses. En fait, c'était un personnage assez... foisonnant, enfin, en termes de techniques qu'on pouvait utiliser autour, des scratchs, du dessin animé, de l'animation plus 2D, des choses comme ça. Ce qu'on aimait bien, c'était l'effet, un peu comme si elle intervenait sur. Alors, c'est pas de la pellicule, mais comme si elle intervenait sur la pellicule du film traduire ses émotions. Comme si c'était elle traversait le quatrième.
Oui, comme s'il y avait des bandes, des fois un petit peu coupées, des ellipses visuelles qui ressemblent aux ellipses mentales qu'elle peut avoir.
C'est exactement ça. Et c'était un personnage assez très plastique, enfin art plastique, on va dire, dans le sens où on revenait un petit peu à des.
Puis la culture du graphe aussi.
Voilà, plein de choses comme ça. J'ai apprécié travailler sur ce personnage.
Pascal?
Et c'est intéressant ce que tu disais sur le visage de Jinx. Faut y faire attention, mais elle a les yeux qui vont devenir un peu plus ronds, un peu plus grands. Elle a le visage qui va s'affiner quand elle a sa part de Powder qui est un peu présente. Moi, j'aime beaucoup tous les personnages. Mais déjà, j'ai participé beaucoup à la création des personnages, même en termes d'assets dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, celui que j'aime bien en personnage, c'est Victor. Parce que c'est un personnage de l'ombre. C'est vraiment le personnage qui est... C'est lui qui va découvrir quelque chose qui révolutionne Piltover, donc je ne peux pas spoiler, mais c'est lui qui va... Et en fait, on les a toujours comparés un petit peu à Apple, à Wozniak et...
Oui.
Comment il s'appelle ?
Steve Jobs.
Et Steve Jobs. Steve Jobs, c'est l'image de Apple, mais Wozniak, c'est le créateur, et lui, il est derrière. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne ref. Et puis, c'est un personnage qui... Alors, on a des attachements aussi, parce que ces personnages, des fois, ils sont faciles à fabriquer. Donc, c'est un personnage qu'on a fabriqué assez rapidement. Puis, il y a des épisodes, il a ses épisodes à lui. Il prend pas beaucoup d'ampleur dans la saison 1, il en prendra beaucoup plus dans la saison 2. Attention, petit spoiler, mais non, de toute façon, je pense que plein de gens le savent. mais voilà, c'est un personnage que... Voilà, bon, le personnage de l'ombre, Jace, à l'avant, alors que lui, il est derrière, je trouve assez touchant. Et du coup, j'aime bien ce personnage. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qu'il apprécie beaucoup aussi.
Et moi, je suis Team Echo Forever.
Ah, ça, ça.
Il y en a pas mal aussi.
Oui, mais ça, c'est normal. Il a le swag.
Mais moi, j'aime bien être, tu vois, comme à lui, comme Victor appelle, l'outsider de la décision sur le personnage préféré.
Et comment vous avez accueilli le succès incroyable, à la fois critique et public, autour d'Arcane ?
Alors, nous...
Est-ce que vous avez fait une soirée avec Jérôme ?
Ah oui, on a fait une soirée surtout
avec 700 personnes.
700 personnes.
Et pas qu'une. Il y a 100 millions de joueurs, 200 millions... Non, il y a 300 millions de joueurs permanents sur League of Legends. Chaque fois qu'on faisait une vidéo, ça faisait 100 millions de vues. Donc déjà, en termes de chiffres, on est plutôt rassuré quand on commence ce genre de projet, quoi. Faut s'avouer qu'en fait, on travaille déjà sur la saison 2 au moment de la sortie de la saison 1. Donc on a un peu vécu les prix et le succès dans le rush. On travaille sur la saison 2, on voit, ça marche, ça passe, etc. Donc en fin de compte, c'est pas comme si t'arrêtais tout et que tu disais, tiens, maintenant j'ai fait une super série, on va faire la fête. Alors bien sûr, on faisait la fête. On allait aux avant-premières à Los Angeles, on fait pas mal de choses comme ça. On a été invité à Cannes Série, je trouvais ça génial. Au début, moi, Cannes, le mec m'appelle, je fais, bon. Mais le directeur de Cannes Série, il m'appelle, il me dit, en fait, Arcane, c'est la première série d'animation que je vais inviter à Cannes Série juste parce que c'est pas une série d'animation, c'est une vraie série. Et là, on a fait go. On a fait la montée des marches tous les deux, on a trouvé ça génial, on a vu des gens, des fans, sans s'en rendre compte.
Quelle est l'animation ?
Bon, après, oui, l'animation n'est jamais mise assez en avant pour nous. Hein. D'ailleurs, c'est nos ambitions, notre ambition principale, c'est de faire comme au Japon, où la plupart des gens regardent de l'animation de façon totalement décomplexée. Nous, ce qu'on rêverait, c'est que les gens regardent nos films, et même d'autres films d'animation, de façon complètement décomplexée. C'est des films, on raconte des histoires.
Ça sera le mot de la fin, hein, pour reprendre ce qu'a dit Guillermo del Toro. L'animation n'est pas un genre, mais un médium à part entière, et Arkane en est la preuve, et vraiment je suis ravi d'avoir pu vous recevoir aujourd'hui pour parler de cette excellente série et de votre travail qui est tout simplement fabuleux, hein. Voilà, on va le dire. Merci beaucoup.
Bah merci à toi.
Et on aurait pu passer des heures là.
Mais oui, j'aimerais aussi remercier Étienne Bertin, le réalisateur de cette émission, une émission préparée par ma comparse Lisiane Larbani, et à la technique aujourd'hui Guillaume Roux. Vous pouvez toujours nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou venir converser directement avec moi sur Instagram, hein, vous connaissez le chemin, et on se retrouve demain pour parler de William Shakespeare.
Tu comptes ouvrir cette porte avant demain ?
Je suis dessus ! Et vu qu'il y a que moi qui sais crocheter une serrure, je te suggère... T'es primitif.